émission en plus.
Bonjour, bonjour à tous, c'est mardi et c'est Culte en radio ce soir. Bonjour Hélène.
Bonjour Martha.
Ça va, tu vas bien?
Ça va, très bien, merci.
Alors autour de la table, il y a aussi Maïna qui est stagiaire pour l'instant. Bonjour Maïna.
Bonjour.
Ça va, tu te sens bien?
Oui, ça va bien.
Hélène, ta première invitée est déjà là, je te laisse la présenter.
Et oui, aujourd'hui on accueille Florine Paquet.
Bonjour tout le monde.
Florine, du coup, c'est une membre active de l'association Low-Tech Liège, mais pas que, et elle va nous en dire un peu plus tout à l'heure.
Et on va commencer par son choix musical, puisque tu lui as demandé de choisir quelques titres, pardon, tu as choisi Thème Impala avec le titre HFGW. C'est bien, parce que tu me facilites la tâche, Florine.
Oui, tout à fait.
Pourquoi ce choix?
Parce que c'est un morceau que j'ai entendu dans l'émission Underground de Classic 21 il n'y a pas très très longtemps. C'était un morceau que je ne connaissais pas du tout d'eux, qui est en fait un morceau tiré d'un EP. Et donc c'était d'habitude les morceaux d'albums que je connaissais, et celui-là pas du tout. Je l'ai vraiment bien aimé, donc je me suis dit, je vais le proposer, nouveauté.
Et tu as envie de le faire découvrir du coup?
Voilà, c'est ça, je l'ai découvert. C'est pas une nouveauté en soi, mais c'est une nouveauté pour moi, parce que je ne connaissais pas ce morceau, et je l'ai vraiment beaucoup aimé en l'écoutant dans la voiture. We'll be right back.
Ta-na-na-na. Alors, on vient d'écouter un morceau de Time Impala qui s'appelle Half Full Glass of Wine. C'était vraiment trop bien. Merci Florine de nous avoir aussi fait découvrir ce morceau. Alors Florine, du coup, t'es membre active de l'association Low Tech Liège.
Oui, je suis exactement membre depuis, je dirais, 2 ans. Donc, en même temps que l'association, en fait, elle a existé il y a à peu près ce temps-là. J'ai entendu parler de cette association via mon job. Donc moi, je travaille pour Repair Together, c'est le réseau des Repair Cafés en Wallonie à Bruxelles. La réparation et les Repair Cafés, c'est une forme de militance contre la surconsommation. Donc c'est réparer nos objets plutôt que de les jeter, ce qui rejoint beaucoup de valeurs que partage aussi la Low Tech. Mm-hmm. Et donc on a, avec mon équipe, rencontré Kim de la SBL et on a forcément fait des liens avec nos actions et les activités de la SBL qui étaient toutes neuves à l'époque.
Excellent, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer qu'est-ce que tu fais au sein du Low Tech Liège et au sein de l'association, enfin, de l'ASBL Repair Together, et voir un peu comment ça diffère concernant tes activités ou s'il y a des points communs, justement, concrètement.
Oui, donc l'idée, c'est que dans l'association Repair Together, je suis chargée de mission. Mm-hmm. Donc j'accompagne des projets de Repair Café. J'organise des formations à destination des bénévoles et du grand public. Je fais aussi de la sensibilisation dans les écoles, par exemple, ou pour des groupes citoyens, etc. Donc moi, dans mes missions, c'est vraiment de sensibiliser à la réparation de manière assez large et d'accompagner les projets. Et dans cet accompagnement de projet, l'ASBL Low Tech Liège s'était dit, comment est-ce qu'on pourrait intégrer la réparation avec la Low Tech, et donc c'est de tous ces liens-là en fait que a vraiment évolué la relation entre les deux associations. Dans l'ASBL Low Tech Liège, je fais partie de l'organe d'administration. Mm-hmm. Et dans cet organe d'administration, je suis plutôt de loin, on va dire, parce que j'ai pas forcément le temps de faire de l'opérationnel. Mais l'idée, c'est que j'aide l'association à voir de manière assez méta, donc assez largement, comment est-ce qu'on peut faire des liens entre différentes thématiques.
Ouais.
Donc voilà, comme par exemple la réparation, ça lie un peu tout ce qui est débrouille, savoir-faire, échange de partage, de savoir, de compétences, ce qui rejoint vraiment les principes de la Low Tech, d'accessibilité, de durabilité, etc.
Tout à fait, ça partage des principes fondamentaux, clairement. Et puis tu fais du coup profiter aussi de ton expérience justement en tant que chargée de mission. Il y a des choses très concrètes que tu sais faire, que tu as déjà déployées, et c'est vrai que c'est pour le Low Tech Liège intéressant d'avoir cette collaboration avec toi en tant que j'ai envie de dire que d'actrice déjà en place sur le réseau associatif du secteur social et solidaire à Liège. Donc il y a comme ça une sorte de d'échange de donnant par rapport à des choses que tu sais faire, que tu as déjà.
Moi, par exemple, lors du dernier festival Low Tech l'année dernière, au mois de septembre, j'ai proposé avec un collègue à moi une formation pour apprendre à réparer. Donc en fait, c'est des initiations qu'on propose au grand public et on l'a proposé dans le cadre du festival Low Tech, ce qui faisait vraiment vraiment sens parce que les gens ont besoin en fait de revenir à de la débrouille, du manuel, du je m'en sors moi-même, je suis autonome, et ça c'est vraiment des choses que nous on propose complètement dans nos formations. C'est vraiment apprendre aux gens à se réapproprier en fait les objets qu'ils ont déjà pour être capable de les réparer par mm-hmm. eux-mêmes par après.
Et alors pour qu'on comprenne bien, un Repair Café ou l'atelier que tu as animé pendant le festival Low Tech Liège de cette année qui vient de s'écouler, 2024, concrètement il y a des outils, c'est de l'intelligence collective, vous travaillez par atelier, comment ça se passe, c'est de la théorie, raconte-nous un peu.
C'est un mix en fait entre théorie et pratique. Donc tous nos ateliers ont de la pratique parce que on veut vraiment privilégier la pratique, le toucher, le manuel, etc. Donc il y a une partie théorique où on explique ce que c'est un Repair Café. Donc un Repair Café, c'est un moment où des bénévoles se retrouvent pour aider d'autres personnes à réparer leurs objets. Donc c'est vraiment réparer.
Donc les gens viennent avec leurs objets, on est d'accord.
C'est ça. Donc c'est réparer des objets ensemble, donc on se pose à une table, on diagnostique le souci avec la personne, le bénévole ou la bénévole va réparer l'objet, si possible avec l'aide de la personne, sinon la personne elle regarde en fait, elle reste pendant la réparation pour essayer d'en apprendre plus sur pourquoi est-ce que l'objet est cassé, comment est-ce qu'on peut le réparer, etc. Ça c'est vraiment le principe de base du Repair Café. Et les formations que nous on donne, elles ont donc une partie théorique donc sur l'initiation aux bases de la réparation petit électroménager, donc c'est réparation de base électro.
D'accord.
Où là, on va plutôt se concentrer sur comment effectuer des soudures à l'étain. On a un petit circuit électrique qui est dans une boîte. On va essayer de trouver la panne qui se trouve dans cette boîte où chacun, en fait, par deux ou par petit groupe, on a un petit boîtier. On va essayer de déceler quel est le souci électrique qu'il y a dans ce boîtier. Donc là, c'est vraiment des bases d'électricité, des bases de soudure, etc. Et après, dans l'idée, c'est d'apporter un objet à cet atelier et qu'on essaye de réparer tous les objets qui ont été apportés par les participants et participantes, tous ensemble et tout ensemble.
Excellent, merci, c'est très clair, ça a l'air assez, assez joyeux. Et puis du coup, ça a l'air surtout d'être, efficace. C'est-à-dire qu'en fait, on peut repartir avec son objet réparé. Alors pas forcément à chaque fois, j'imagine qu'il y a des fois, il y a probablement des choses qui ne se réparent peut-être pas. Mais la plupart du temps, selon ce que je comprends et selon son expérience, quand même, on arrive à réparer pas mal de choses, non ?
Oui, en Repair Café, là, on répare entre 60 et 70% des objets.
Pas mal.
Donc ça, c'est tout atelier confondu, parce qu'en Repair Café, on ne parle pas juste de tout ce qui est petit électroménager. On parle aussi de réparation couture, de réparation informatique, que ce soit software ou hardware. Donc ça peut être différentes sortes de réparations. Et ça peut aussi d'autres types de réparations, comme par exemple des vélos qu'on apporterait, ou bien des petits meubles en bois, ou bien de l'affûtage de couteaux et de ciseaux. Moi, c'est ce que je fais au Repair Café à Liège, par exemple. Je suis bénévole j'affûte des lames. Okay. Et donc voilà, ça peut être vraiment plein de sortes d'ateliers. Et donc ce pourcentage que je cite, c'est un peu tout atelier confondu, sachant que l'atelier électro, c'est celui qui a en général le plus de succès dans les Repair Café. C'est vraiment ce que les gens recherchent, parce qu'en fait, c'est une compétence qui s'est vraiment perdue au fil du temps.
Et oui.
Nos grands-parents avaient l'habitude de réparer, ça s'est perdu en 30-40 ans, on a vraiment perdu cette habitude. Et ici, l'idée, c'est de vraiment redonner aux gens cette compétence qui a été perdue. Et malheureusement, c'est l'électronique et l'électrique qui a vraiment le plus évolué en très très peu de temps. Et donc les gens ont vraiment perdu des compétences, ils se sont vite sentis dépassés. Et puis même le rythme, la manière dont on apprend aussi à l'école, etc., c'est plus du tout la même. Et en fait, on a vraiment perdu tout ça. Et
oui.
Donc c'est vraiment ça qu'on veut redonner comme entre guillemets comme pouvoir aux gens,
ouais.
C'est de pouvoir voilà.
C'est un pouvoir important en fait de savoir et pouvoir retoucher soi-même ces objets, les faire évoluer en fonction aussi de la vie, enfin c'est-à-dire que l'obsolescence programmée, ça peut se combattre aussi, enfin voilà, c'est une forme de pouvoir bien concret et qui est accessible. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça rejoint tout à fait l'Holotech, puisque ça permet de rendre durable les objets et de manière accessible.
Oui, pour parler d'accessibilité, il y a l'accessibilité financière, premièrement, parce que réparer des objets, ça peut coûter assez cher quand on va chez un commerçant, par exemple, ici à Liège, il y a pas mal de petits commerçants qui font des réparations. On pense notamment aux réparations de téléphones et d'ordinateurs qu'on voit un peu à chaque coin de rue.
Mm-hmm.
Et on se dit, ça va me coûter, par exemple, 200 euros de faire ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Et en fait, c'est aussi pour ça que les gens perdent l'habitude de réparer. C'est parce que ça coûte cher et ça coûte moins cher parfois de racheter une neuf.
C'est vrai.
Et ça, c'est vraiment une très, très, très grosse problématique environnementale, premièrement. Et donc, c'est vraiment à cause de ça c'est grâce à ça en fait que les Repair Cafés sont nés, parce que les Repair Cafés c'est prix libre, parce que ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps, et donc on a simplement une tirelire à l'entrée, les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent pour le Repair Café qui va revenir un peu dans l'organisation Et donc ça permet vraiment de rendre accessible financièrement la réparation. Et puis accessible géographiquement, parce qu'en fait des Repair Cafés, il y en a plein. Il y en a environ un peu plus de 200 sur tout le territoire en Wallonie et à Bruxelles. Et ici, rien qu'en province de Liège, il y en a presque 50. C'est-à-dire que dans plus d'une commune sur deux, on peut trouver un Repair Café. Alors après, il faut être patient parce que c'est tous les mois minimum. Parfois, c'est tous les 2 mois, tous les 3 mois en fonction. Vu que ce sont des personnes bénévoles, ça a ses limites. Mais voilà, au moins, on en a a priori toujours un près de chez soi pour pouvoir aller réparer l'objet avec les bénévoles.
Bon, merci beaucoup pour nous en avoir dit un peu plus là-dessus. Et on va s'écouter un petit morceau de musique. On va écouter le morceau Seasons de Pearl Grey, qui est un groupe local, un groupe de Liège, et qui joue bientôt d'ailleurs. On vient d'écouter Pearl Grey de Season, pardon, de Pearl Grey. Et on se retrouve du coup dans Culte avec Florine Paquet aujourd'hui dans la chronique Ludothèque Liège.
Je tiens juste à préciser que le groupe qui vient de passer, c'est un groupe dans lequel Simon, qui est aussi dans l'association, joue. Et c'était pour faire un petit clin d'œil à Simon. Chouette. Parce que j'aime beaucoup son groupe. Aujourd'hui, j'ai lu une partie d'un livre. C'est un livre qui s'appelle « Le petit traité de vie intérieure » de Frédéric Lenoir. Et j'avais envie de lire un petit passage qui m'a un peu titillé tout à l'heure, cet après-midi, quand je l'ai lu.
Et bien avec plaisir, on t'écoute.
C'est un peu de saison, justement, hein, en parlant de seasons, un petit peu voilà, dans l'air du temps, voilà, sans vouloir faire ma grosse gaucho-militante. Mais,
et quand bien même, tu aurais le droit.
Voilà. Il n'est pas demandé aux riches de donner tout leur argent aux pauvres, mais seulement leur superflu. Il leur est demandé de ne pas entrer dans une logique d'acquisition sans fin qui n'apportera ni paix sociale, ni bonheur individuel. Cette idéologie consumériste, cette logique de l'avoir qui touche tant d'individus, riches ou pauvres, persuadés que leur bonheur viendra de la consommation et de l'accumulation des biens matériels, ronge notre monde actuel. Or, si un minimum d'argent et de confort est utile, il importe de sortir de la logique du « toujours plus » qui est devenu notre mot d'ordre. car la quête matérielle est par nature insatiable. Elle nous pousse à vouloir posséder toujours plus au détriment des équilibres sociaux et écologiques de la planète. Voilà, je trouvais que justement, c'était un petit extrait qui parlait pas mal du sujet d'aujourd'hui et de la consommation qui est toujours de plus en plus présente dans nos vies. Mmh. Et en fait, j'ai un peu du mal à me dire comment est-ce que les gens arrivent encore aujourd'hui à ne pas être raisonnables en fait, dans leur mode de consommation, dans leur mode de vie, à se dire, ben voilà, je veux toujours acheter plus, que ce soit ben voilà, des vêtements, des électros dont on parlait, etc. Mmh. Je fais aussi beaucoup référence à la fast fashion, qui moi, est un sujet qui me touche vraiment énormément. Mmh. Voilà, et pour moi, il faut vraiment être modéré et raisonnable dans sa manière de consommer.
Florine, ben justement, tu parles de sentiments que tu ressens et moi ça m'arrive aussi, mais qu'est-ce que tu en fais du coup toi de ça? Est-ce que ça te met en colère? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu le réfléchis? Enfin voilà, qu'est-ce que tu en fais?
J'ai envie de dire, moi je l'accepte dans le sens où moi je suis droite avec la manière dont moi je fais. Mm-hmm. Après je comprends qu'il y ait des gens qui soient rentrés en fait dans cette manière de faire parce que bah, c'était la culture d'aujourd'hui, c'était la manière de faire, de dire, j'ai même envie de dire parce qu'aujourd'hui normalement elle ne devrait plus forcément en être. Et donc j'arrive à vivre avec, mais moi ma manière de... lutter contre ça, c'est ben déjà d'essayer de travailler ou de m'impliquer dans des associations qui luttent contre la surconsommation de manière générale. Donc ça, c'est une première chose. Pense que... Et faire passer le mot aussi via, par exemple, les réseaux sociaux. J'aime bien partager des stories Instagram d'organisations qui sont à l'autre bout du monde et qui montrent tous les vêtements qui sont sur des plages ou les plastiques, etc. Et juste dire... arrêter à un moment donné, ben en fait la planète elle est là, elle est aujourd'hui, elle est ici, elle est pas ailleurs et en fait jeter des choses, en fait elles disparaissent pas, c'est juste qu'en fait elles vont dans d'autres pays ailleurs et
s'accumulent
voilà c'est ça et j'aime bien sensibiliser les gens en montrant des petites stories un peu choc de certaines organisations voilà.
Mais c'est vrai.
C'est un peu ma manière, parce que je me dis, il y a vraiment que, qu'en le voyant avec des vidéos qui sont vraiment parlantes et choquantes, qu'à un moment donné, les gens peuvent comprendre. Parce que c'est pas en leur disant, vous pouvez aller mettre votre vêtement dans une bulle, que ça va fonctionner. En fait, il faut qu'ils comprennent après quel cheminement cet objet, que ce soit un vêtement, un électro, peu importe, va faire et où il va se retrouver et quelle est la vérité derrière les taux de recyclage qu'on nous vend qui sont complètement faux et qui sont complètement absurdes. Enfin voilà. Et donc moi, c'est ma manière de réagir, c'est d'essayer de sensibiliser les gens en partageant des choses, notamment sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment s'engager dans des associations ou des organisations, des ONG qui font sens pour nous par rapport aux sujets qui nous tiennent à cœur.
Ça reste, je pense, une manière vraiment efficace parce que je pense que l'information, c'est la clé de ce genre de problématique. Et ce que tu dis, c'est très clair que beaucoup de gens n'ont pas forcément accès à ces informations-là, ne prennent pas forcément le temps, en fait, effectivement, de s'intéresser à ça et sont vite dans des systèmes un peu faciles de consommation, d'avoir le dernier manteau, le dernier cri de ceci ou cela, la dernière technologie, etc., sans être nécessairement conscient, enfin sans avoir à l'esprit des réalités sociales, écologiques, économiques derrière. Et donc c'est, je pense, une bonne manière, moi, de justement de répondre à ça. Et effectivement, s'il y a de l'émotion, qu'on est touché par des choses, c'est chouette de pouvoir utiliser ça pour retransmettre de l'information et que ça reste pas, mais hop, que ça reparte un peu comme une sphère de reflet positif finalement, sans culpabiliser les gens, mais en leur montrant certaines phases du miroir qu'on voit pas toujours, quoi. Et je pense que ça fonctionne.
Oui, c'est ça. Après, il y a une certaine polémique, surtout pour le moment, par rapport aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vrai que c'est assez problématique parce qu'il y a beaucoup de fake news. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont en train de quitter en masse les réseaux sociaux pour diverses raisons. qu'on ne citera pas ici.
Non, comme, voilà. On est clairement face à une crise.
Mais on est clairement face à une crise de l'information.
Tout à fait.
Et donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de faire passer des messages aux gens, surtout pour des choses qui se passent ici et maintenant, mais qui se passent aussi au bout du monde. Et donc, voilà, moi, c'est la manière que j'ai trouvée pour le moment de le faire. Maintenant, c'est, voilà, comme je disais, ce n'est pas forcément la meilleure manière de faire. Mais en tout cas, ce qui est surtout hyper, hyper important et que j'ai envie de faire passer comme message, c'est surtout de s'impliquer, de militer pour ce qui nous touche, parce qu'il n'y a vraiment que ça qui va fonctionner. Ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer.
Et c'est ce que tu fais, c'est ce que tu incarnes. Hein,
c'est ça, vraiment. C'est ça. J'ai vraiment toujours eu envie de m'impliquer. En commençant par 48FM, hein, en fait, finalement, j'ai participé notamment, enfin, ici sur Liège, je vais un petit peu parler de moi, mais on organisait notamment un festival qui était à l'époque un peu à contre-courant des ardentes qu'on connaît aujourd'hui, qui n'était pas du tout la même chose, mais qui s'appelait les Barbantes. Et 48FM était un fidèle partenaire.
Toujours.
Et c'est un peu comme ça aussi que je suis rentrée dans la vie associative et culturelle. J'ai fait des études en communication. Mon premier stage, ça a été à La Zone, qui est une maison de jeunes et une association socioculturelle ici à Liège, qui propose des concerts, des expos, de la sérigraphie, des ateliers en tout genre.
Oui, sur Outre-Mer.
Qui est basée en Outre-Meuse. Et puis, je suis passée par ici, par la radio, où j'ai appris à connaître plein de sujets, et avec Martha et Fred. Après, j'ai été complètement dans le domaine du cinéma pour un autre stage. Et j'ai commencé à m'impliquer en tant que bénévole, parce que c'est accessible à tout le monde de devenir bénévole dans une association.
Tout à fait.
Et donc, ça, c'est vraiment le début de tout, je pense. C'est vraiment se dire, moi j'ai envie de passer mon temps à quoi ? Pas à regarder la télé et à me former chez moi ou quoi, mais c'est vraiment à voir des gens expérimenter, parce que c'est ça aussi la low-tech, hein, c'est l'expérimentation par le savoir-faire, le savoir-être. Et du coup, toutes ces expériences-là de bénévolat ont fait qu'au final, j'ai réseauté pas mal, j'ai appris à connaître plein de personnes dans plein de domaines différents. Et c'était vraiment hyper intéressant, et ça l'est toujours d'ailleurs, parce que je suis toujours impliquée dans à la zone.
Oui, dans plusieurs associations.
Oui, c'est ça. Et plus récemment, je suis impliquée chez Ouftikope, qui est une coopérative d'alimentation ici à Liège. Donc c'est un magasin participatif. Donc c'est pour faire court, parce que je sais qu'on en a déjà parlé dans Culte une fois minimum.
Petite piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Et surtout, la notion de coopérative, tout ça, c'est toujours intéressant de réexpliquer un peu ce que c'est et comment ça fonctionne.
Donc le magasin participatif ici à Liège, mais il n'y a pas que celui-ci, il en existe depuis les années 70. En fait, c'est un concept qui est né aux États-Unis. Le magasin participatif et coopératif, c'est donc une coopérative. Il y a des coopérateurs et des coopératrices qui donnent de leur temps tous les mois dans un magasin, donc 3 heures par mois. Où là, on va faire le rayonnage, la caisse, l'achalandage, la compta, etc., la communication. Et toutes les personnes qui participent permettent de ne pas avoir des employés, comme dans une entreprise. Et ce concept permet surtout que, grâce au fait qu'on n'a pas certaines charges salariales, on peut se permettre d'avoir une marge assez basse sur nos produits. Et donc, on peut nous-mêmes choisir nos produits. Donc, on est vraiment maître de notre consommation. Donc, l'idée, c'est de reprendre sa consommation en main. Et donc, le concept de la coopérative, c'est vraiment ça. C'est que les coopérateurs et coopératrices sont acteurs et actrices de leur magasin. Donc, c'est eux et elles qui l'ont créé.
Voilà, et de leur consommation au sein de ce magasin. Voilà, c'est ça. C'est dans les deux sens, quoi.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est de donner Bon, forcément, il y a quand même un petit peu d'argent qui va être donné par les coopérateurs, coopératrices. Donc, c'est des parts, comme dans n'importe quelle coopérative, en fait.
Voilà, c'est ça. Ça fonctionne par part. C'est voilà. Ça. Chaque personne prend une part.
Voilà.
Et du coup, quelque part, devient...
Voilà, on devient un coopérateur, coopératrice en ayant des parts. Peu importe le nombre de parts que la personne va avoir achetées, il pourra avoir une voix à l'Assemblée Générale et donc participer à la vie active de cette coopérative. Donc ça, c'est vraiment la base de toutes les coopératives. Et nous, vraiment, le concept, la spécialité, c'est que les gens participent. Donc il y a juste deux employés dans le magasin. Et toutes les personnes que vous voyez en allant au magasin, en fait, ce sont pour la plupart des personnes bénévoles.
Et alors, c'est un magasin de quoi exactement ? Ça vend de la nourriture, mais pas que, du bio, du local. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de...
Oui, je vais aller rapidement parce qu'on en avait déjà discuté dans cette émission, mais c'est local le plus possible. Quand c'est pas possible, donc par exemple cacao, chocolat, etc. Là, ce sont avec des partenaires éthiques qu'on travaille. Et puis après, pour tout ce qui est non alimentaire, là on travaille aussi avec des petits producteurs locaux, ou en tout cas du bio. Tout n'est pas forcément bio, mais ce qui ne l'est pas est en phase de le devenir, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément l'agrément.
Oui,
parce qu'il y a différents facteurs qui font que les gens ne le sont pas forcément.
Oui, et puis les labels ne sont pas toujours garants.
Voilà, enfin, c'est ça,
façon,
exactement.
C'est,
ouais. Et tous les maraîchers et maraîchères avec qui on travaille sont vraiment ici de la région, quoi.
Voilà, donc c'est aussi un principe de collaboration. Au-delà d'être coopérateur de Ouftikoupe, faire partie, etc., et venir faire ses courses ici, c'est aussi quelque chose qui crée et qui génère des partenariats avec des producteurs, des agriculteurs locaux, etc. Il y a aussi une mise en réseau comme ça.
En fait, je vais essayer de refaire encore une fois un petit parallèle avec la low-tech. Mais du coup, on a cette notion... de local, on sait qui sont les producteurs et productrices, on sait d'où elles viennent, on sait quels sont leurs produits, on les a goûtés, on n'a pas négocié les prix avec eux. Mm-hmm. Donc il y a vraiment cette notion de confiance avec les personnes avec qui on travaille. Alors, c'est sûr que pour certaines choses, on travaille avec des grossistes et on n'a pas un contact privilégié avec... les références de produits qu'on a au magasin, parce que l'idée, c'est que dans ce magasin, on peut trouver normalement 90% des besoins quotidiens des personnes. Donc, on n'a pas tout, mais on a a priori plus que dans une épicerie. L'idée, c'était que les gens ne fassent pas plusieurs chapelles. Donc, il y a un peu de tout.
Juste une petite question, c'est situé où ? C'est où, Ouftikoupe, si on veut venir vous...
C'est rue Cursus, numéro 10. Donc, c'est aussi en Outre-Meuse. C'est vraiment juste en face du B3, Bavière, derrière l'Académie Guertry.
Trop bien, merci beaucoup.
Mais je voulais juste...
musicale ?
Ouais. Ça
dis
va.
Ouais,
non, je voulais juste faire le mini parallèle dont je parlais.
Ah oui.
C'est juste qu'en fait, par rapport à la low-tech, ça revient encore une fois à ce mode de consommation, en fait. Parce que même si on se dit, le bio, le local, c'est un peu plus cher. En fait, moi, personnellement, je préfère payer plus cher pour être bien nourrie, de qualité, etc. Et ne pas consommer d'autres choses un peu superflues. Donc mettre un peu mon argent et mon attention sur ça, parce que c'est ça qui fait la qualité de vie, plutôt que le superflu du reste. Et donc ça, c'est aussi pour moi une démarche un peu low-tech.
Low-tech, c'est une démarche engagée. Et puis en plus, c'est pas forcément toujours si vrai que ça, que ça coûte plus cher. On pourra aussi en reparler un peu, si tu veux, après cette pause musicale. Je te laisse nous annoncer ce qu'on va écouter en troisième.
C'est une très bonne question, parce que j'ai exactement oublié. Ah oui, c'est Étienne Dao.
Ah, oublier Étienne Dao ?
Ah oui, comment oublier Étienne Dao ? Alors, Étienne Dao, c'est juste une mini-histoire. En fait, mon père avait l'habitude d'écouter ça dans la voiture. Mm-hmm. Et je crois que c'est juste resté. Et en fait, j'aime bien.
Alors,
et
ses
là,
souvenirs.
Et là, du coup, c'est, le morceau, c'est « Weekend à Rome ». Parce que juste, on a envie d'un peu de soleil, de douceur et de chaleur.
Clairement. Voilà. Merci.
Tous les deux sans personne, Florence. sous la pluie. Bonheur, soupir, chanson pour rire, chanson étale. Pour une escale. Week-end à Rome, afin de coincer la bulle dans ta bulle. Poser mon cœur dans ton bocal. Ton aquarium, une escapade à deux. La pluie m'assomme, gris m'empoisonne, week-end à Rome. Pour la douceur de vivre, et pour le fun, puisqu'on déjeune, week-end létal. Retrouver le sourire, je préfère te dire, j'ai failli perdre mon sang-froid.
Fait du bien un peu de soleil sur les ondes de 48 FM.
Ah oui, Étienne Dao toujours, je trouve.
C'est vrai, c'est une valeur sûre.
On n'écoutera jamais ton jingle.
Eh bien si, justement, on va écouter mon jingle. On peut l'écouter peut-être maintenant. En fait, je suis heureuse de vous présenter le nouveau jingle qu'on a enregistré, qui sera le jingle de chronique, de la chronique Low-Tech Liège. Donc c'est parti. Vas-y Martha, on y va.
Savoir-faire et faire savoir.
Une chouette chronique de Low-Tech Liège.
Yeah.
Voilà. Classe. C'est une première. C'est sympa, les premières.
Et c'est quoi l'histoire de la chouette ?
Alors, l'histoire de la chouette, la chouette, c'est que il y a plein de choses, en fait. La chouette, c'est chouette. Une chouette, c'est, voilà, ça nous traduit très bien cette idée de quelque chose de sympathique, de chouette, de gay, d'enthousiasmant. Et puis, la chouette, c'est aussi un animal qui voit dans le noir, hein, donc qui a la capacité de se repérer dans des moments où il y a de l'assombrissement, on va dire ça comme ça. Et quelque part, pour nous, Low-Tech Liège, c'est aussi une façon de résister et de voir dans le noir quand on vit des périodes d'assombrissement sur le plan écologique, économique, social, etc. Et il nous semblait que c'était intéressant de faire un petit clin d'œil à cette compétence-là, de savoir voir quand on ne voit pas. Qu'on ne voudrait pas qu'on voit.
Oui, ça rejoint un peu le système de résilience, de savoir rebondir quand il y a des crises, en fait. Je pense que c'est aussi à ces enjeux-là que l'Hôtel Liège veut répondre. C'est vraiment se dire, quand il y a quelque chose qui arrive, quelle solution est-ce qu'on peut apporter de manière utile, accessible et durable.
Exactement, tout à fait. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Florine, par rapport à ce qu'on s'est déjà dit, à ce qu'on a échangé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble important?
Moi, ce qui me semble quand même important de dire ou d'ajouter, je ne sais pas si ça avait été dit dans la dernière chronique, mais c'est un peu les avancées de l'association.
Mais justement, on n'en avait pas trop parlé, donc si tu veux, lance-toi, ça nous...
L'association Hôtel Liège a désormais quelques projets en cours. Hein. Donc ici, on a notamment le projet Rénobatex qui a permis d'engager en fait des personnes. Qui vont vraiment être employées et payées pour ce qu'elles font.
Voilà, déjà ce contrat, c'est vrai que c'était un grand moment pour l'association. Ouais.
Ça, c'était vraiment un grand moment. Ce projet-là, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet de rénovation en fait, d'habitat qui sont basés sur un habitat qui existait en fait, déjà. Donc, on a déjà testé, expérimenté des rénovations du côté de mairie. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir reproduire dans des vraies habitations pour des vraies personnes qui ont envie, en fait, de rénover leur habitat de manière low-tech, donc c'est-à-dire en utilisant des matériaux qui sont durables, etc. Et d'intégrer aussi des technologies low-tech à l'intérieur de leur habitat. Avec tout plein de détails de ce projet que je ne vais pas énumérer ici. Et puis aussi, on a une partie des bureaux qui sont au B3, mais ça c'est depuis toujours. Donc merci la province de Liège pour le partenariat.
Et on est en déménagement.
Il y a déménagement, pas forcément des bureaux, mais on a un tout nouveau partenariat qui est un partenariat avec Batiterre. Batiterre qui est une entreprise de récupération de matériaux sur des chantiers qui est à la place de l'ancien Mairie-Bois, donc c'est rue Saint-Léonard. Et en fait, Batiterre a gentiment accepté de nous sous-louer un de leurs hangars qu'ils n'utilisaient pas. Et ce hangar va permettre notamment de pouvoir expérimenter justement la construction de ces low-tech pour l'équipe et pour aussi d'autres personnes qui voudraient expérimenter et partager ce local, toujours pour le partage de savoir-faire.
Ouais. Du coup, l'association, on peut le dire, est en train de grandir, est en train de s'établir de faire réseau avec d'autres partenaires locaux à Liège. Comme tu le dis, Batiterre, toujours le B3, puisque nos bureaux restent là-bas, effectivement. Et puis, on continue aussi d'être en lien avec le site de Mairie-Bois, même si on a un déménagement qui a eu lieu. On continue d'être présent sur ce chantier dont tu parlais avec Rénobatex. Et il y a cette idée qu'on puisse faire une forme de modèle qui puisse se déployer sur d'autres. Voilà, tu parlais des particuliers ou des gens qui peuvent avoir envie de rénover leur habitat ou une partie de leur habitat et selon un cahier des charges low-tech. Et donc, nous, on permet de faire cela avec ce projet. C'est vrai que c'est un beau projet. Merci beaucoup, Florine, d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de ton engagement associatif à Liège et de la diversité de ce que tu fais. Merci infiniment.
Merci de m'avoir reçu.
Avec plaisir. On se quitte avec un morceau de Julie Odel, qui est une amie américaine et qui fait de la folk. On l'écoute tout de suite, le morceau Enveloppe. Merci.